Santé, c'est bon pour la santé. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous, avec grand plaisir pour le prochain 60 minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Aujourd'hui à l'émission, le yoga pour les personnes âgées, on le sait, ça a de nombreux bienfaits, notamment de prévenir les chutes, et on en parlera avec Carole Morancy. Elle est l'auteure de ce livre « Yoga tout, la prévention des chutes ». Ça vient de sortir aux éditions de l'Homme. Également, le docteur Jacques Hébert, lui, immunologue, allergologue du côté de la clinique spécialisée en allergie de la capitale, c'est à Québec, nous parle d'un trouble génétique plutôt mystérieux, l'angio-œdème héréditaire, également de cette première campagne de sensibilisation. J'aurai avec moi également Marie-Pierre Vaudry, elle est fondatrice des éditions Melba. Elle nous présente aujourd'hui le guide de pratiques anti-rides pour les neurones en cette journée internationale de la maladie d'Alzheimer qui touche, je vous le rappelle, à peu près 140 000 personnes ici au Québec. Et puis Sonia Péguin, conteuse et accompagnante à la naissance, nous parle d'une méthode qui intrigue moi et certaines collègues, le chant prénatal, et également quelque chose qui me semble assez magnifique, le chant, les impacts du chant auprès des bébés. Mais tout de suite, après cette courte pause, la recherchiste de cette émission, Anne-Laure Janson, est là pour nous livrer sa revue de presse « Santé de la semaine ». Bonjour Anne-Laure Janson.
Bonjour Marianne Paquette.
Merci d'être là avec nous pour nous livrer ce qui a retenu votre attention au cours de la semaine en matière de santé. On commence avec une nouvelle qui nous vient de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, en fait, le comité des usagers de l'INLB, plus proche de nous, a relayé cette information. L'Organisation mondiale de la santé a lancé au tout début de l'été dernier donc, sa première liste des produits et aides techniques prioritaires, une liste de produits d'assistance qui se veut un catalyseur dans la promotion de l'accès aux technologies d'assistance. Cette liste a été conçue par l'OMS en collaboration avec l'Alliance internationale des personnes handicapées et l'Union mondiale des aveugles. Elle marque la première étape de l'initiative GAP de l'OMS, destinée à rendre les technologies d'assistance plus accessible à tous, partout dans le monde. Cette liste recense les produits d'assistance les plus prioritaires pour les personnes handicapées et se divise en catégories par type de handicap, dont une concerne la vision. Et en fait, cette liste fait suite à la liste qui existe, une liste modèle de médicaments prioritaires que l'OMS avait déjà diffusée il y a quelques années.
Donc, les produits d'assistance prioritaires, les personnes qui sont en situation de handicap, est-ce qu'ils pourront y avoir accès d'une certaine façon?
Oui, c'est ça. En fait, dans le fond, ça permet, cette liste fournit à chaque État membre un modèle pour élaborer une liste de produits d'assistance à placer au rang des priorités nationales. Mm-hmm. Et donc, elle aide aussi les États, elle donne des conseils aux États sur tout ce qui est remboursement, soins.
Ouais, des guides quand même assez importants à avoir de son côté. Maintenant, on poursuit avec un nouveau centre de simulation pédiatrique du côté de l'hôpital Shriners pour enfants.
Oui, l'hôpital Shriners de Montréal est le seul centre du genre dans le réseau des 22 hôpitaux Shriners. Il ouvre donc son premier centre de simulation pédiatrique. Alors, il s'appelle José, il s'agit d'un mannequin. Et José est plus précisément ce simulateur de jeunes patients qui simule un vaste éventail de conditions allant d'un enfant en santé qui parle à un patient dans un état critique qui ne présente plus de signes vitaux. Le simulateur de patients constitue un outil de formation parmi beaucoup d'autres au centre de simulation pédiatrique, nouvellement ouvert au deuxième étage de l'hôpital. Le centre changera la façon dont les professionnels de la santé sont formés et améliorera en fin de compte la qualité des soins et la sécurité des patients, on l'espère.
Eh oui, tout ça pour bien sûr aider les soignants à aider les patients et les jeunes patients et leurs familles. Maintenant, une initiative du côté de la capitale, du côté du Chute-Québec, le centre Mère-Enfant, qui nous parle de la rentrée scolaire pour des enfants qui vivent avec le cancer.
Oui, tout à fait. En fait, c'est Centre Mère-Enfant et aussi Le Camp qui accompagne les enfants atteints de cancer dans les écoles lorsqu'ils réintègrent leur classe. Ils aident, en fait, lorsque leur copain, pourquoi il ne fait pas d'éducation physique, pourquoi son visage est bouffi, pourquoi il perd ses cheveux. Au primaire, les interrogations, on le sait, sont nombreuses et spontanées. Ouais. Alors, lorsqu'un enfant malade réintègre son école, Le Camp est sur place pour faciliter la transition, informer les enseignants, la direction et les copains. Lorsque l'enfant a un système immunitaire trop affaibli, c'est le cas d'une petite fille qui s'appelle Megan Sénéchal, dont on parle dans Le Soleil le 16 septembre. Donc, elle fait l'école à la maison à raison de deux heures par jour. Elle était déçue de ne pas y aller à la rentrée. Ouais. Et ses parents espèrent qu'elle pourra y retourner un peu avant Noël. Il y a aussi ces enfants qui sont hospitalisés pour de longues périodes et qui reçoivent en fait l'enseignement d'un professeur qui visite chacune de leurs chambres afin de s'assurer qu'ils peuvent poursuivre leur apprentissage. Donc c'est un prof polyvalent puisqu'il touche toutes les matières de la première année à la cinquième secondaire. Et il est en quelque sorte prêté par la commission scolaire des découvreurs et fait le lien entre l'élève et sa classe.
Ben, c'est assez important comme initiative lorsque l'on pense que déjà l'enfant malade a à rassembler toutes ses forces pour passer à travers cette maladie, déjà de vivre avec le tabou, avec les questionnements, certains préjugés aussi qui sont liés à sa maladie. C'est Le Camp et cette initiative du Centre Mère-Enfant peut tenter d'assouplir un petit peu le regard sur ces enfants qui vivent une période déjà très, très difficile. En terminant, un portrait émis par la presse sur ce jeune homme, Steve Sivigny, un papa, un père de famille qui a eu une grande frousse quand même.
Oui, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était le congrès canadien de l'AVC et on relatait qu'aucune cause spécifique n'est trouvée dans 30% des cas d'AVC. Pour une personne âgée de 50 ans et plus, les causes sont plus souvent associées au risque cardiovasculaire comme l'hypertension. Chez les sujets jeunes, l'AVC peut être causé par un problème à l'artère cervicale ou à la carotide, être lié à un mouvement brutal du cou, par exemple. Mais dans 3 cas sur 10, on ne trouve aucune cause et c'est ce qui s'est passé pour M. Sivigny qui n'avait que 32 ans lorsqu'il a subi un AVC qui a paralysé son côté gauche. Il a dû réapprendre à marcher, à manger, à se brosser les dents. 4 ans plus tard, heureusement, le sportif de Stoneham court et joue au soccer. Il est sur le point de réaliser son rêve de devenir policier également.
Oui, il était à l'aréna avec ses enfants quand ça s'est passé. Par chance, de plus en plus, l'AVC est connu. Il est connu autant du grand public que du personnel soignant et on agit. Qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est d'agir rapidement dans les cas d'AVC. Anne-Laure Janson, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Bien pris.
Sonia Péguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conteuse pour les tout-petits et animatrice de chant prénatal. Je le disais en introduction, le chant prénatal a suscité beaucoup de questionnements dans mon environnement. Et ben, moi aussi, je me demande d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est le chant prénatal?
Alors, le chant prénatal, ben, comme le nom l'indique, c'est pour les femmes enceintes et puis les papas qui veulent bien se joindre à elles. C'est une manière, en fait, de se faire du bien, tout simplement, pendant la grossesse, de chanter pour soi et de chanter pour l'enfant à naître.
C'est un petit peu parfois un réflexe qui nous vient instinctivement lorsque l'on attend un enfant, Sonia.
Ben, oui, souvent, ça arrive que les gens aient envie de chanter, mais beaucoup n'osent pas réellement le faire. Et je pense que souvent, on s'auto-censure. par rapport à sa voix et par rapport au chant notamment. Et ce qui est intéressant pendant la grossesse, c'est justement d'accepter et d'accéder à des choses en soi qui ont besoin de s'exprimer. Et le chant prénatal permet ça. C'est-à-dire, je m'autorise à chanter, je m'autorise à me faire du bien par le chant pendant que je suis enceinte, parce que l'époque de la grossesse est multiple, j'ai envie de dire, parce que une femme qui est à 3 mois de grossesse a une réalité qui correspond pas du tout à celle qui est à 6 mois de grossesse et encore moins à celle qui est sur le point d'accoucher. Oui. Au niveau hormonal, au niveau émotionnel, il se passe beaucoup de choses. Au niveau du couple, de la famille, de la fratrie, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et puis par rapport à l'histoire de chacun aussi, ça va aller toucher des zones de souvenirs. Donc toutes ces choses-là, on peut les chanter.
Oui. On comprend les bienfaits pour le couple, pour la maman. En premier lieu, est-ce qu'il y a des bienfaits confirmés pour le fœtus?
Ben, complètement, en fait. Mais c'est assez simple à comprendre, finalement, parce que si vous chantez, quand vous chantez un petit peu, juste une petite chanson, et que vous posez votre main sur votre torse ou sur le haut de votre tête, ou même quand vous parlez, vous allez sentir que votre corps vibre. En fait, quand on chante, on se masse intérieurement, on respire mieux, on change notre posture, on s'exprime. Et puis, le bébé, en fait, il va vivre la même chose.
Est-ce qu'il entend, Sonia, le bébé?
Le bébé entend à partir de 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Mais le premier des sens qui se développe, c'est la peau. La peau, en fait, est un organe et le sens qui va avec, c'est le toucher. Alors, ça veut dire que le bébé, même si c'est encore un petit œuf, même si c'est encore un tout petit embryon, à chaque fois qu'on va chanter, mais lui, dans le liquide amniotique, il va vibrer sur tout son corps. Alors, la maman, quand elle chante, elle se masse elle-même, elle se fait du bien, mais son bébé, il est stimulé sur toutes les parties de son corps et ça, ça va aussi l'éveiller. Ça va amener la conscience et la présence qu'on est en train de lui parler, de s'adresser à lui. Et déjà, même tout petit, on est en train de tisser le lien d'attachement.
Voilà.
Je m'adresse à mon bébé, je suis capable de lui dire ce que je vis, je suis capable de lui chanter, de prendre un temps pour moi, un temps pour lui, ensemble.
Est-ce qu'il y a, Sonia, un répertoire où on y va déjà avec les chansons que l'on connaît?
Alors, en fait, on peut chanter avec des chansons qu'on connaît. L'important, c'est de se faire du bien et de se faire plaisir. Après, un atelier de chant prénatal, c'est un atelier en groupe. Donc, les mamans enceintes, quel que soit le stade de la grossesse, viennent quand elles se sentent prêtes. Et dans cet atelier de chant prénatal, on va faire des sons, juste écouter le parcours du son en soi, expérimenter le son, sentir comment on est avec un A, avec un O, etc., qu'on va tenir. Donc, il va y avoir ces sons-là, il va y avoir des vocalises, il va y avoir des chansons, ça peut être des chansons variétés, des chansons contemporaines, et il va y avoir des chansons prénatales, spécifiquement prénatales, qui sont des chansons écrites pour aller justement stimuler, entre guillemets, le corps, des orteils jusqu'au haut de la tête, parce que les sons aigus vont plutôt vibrer le haut du corps, les sons graves plutôt le bas. Donc si on fait une belle alchimie entre ces deux choses-là pour créer une chanson, ben, on va aller toucher toutes les parties du corps. Puis le chant, c'est d'abord corporel. Et ces chansons prénatales, elles sont principalement écrites par la fondatrice du chant prénatal et de la psychophonie, c'est-à-dire Marie-Louise Auchet, qui était une cantatrice française.
Sonia Péguin, est-ce que certains parents qui n'oseraient pas chanter peuvent quand même passer à travers cette crainte-là? En fait, vous répondez quoi à des parents qui disent « Oh non, moi, je chante pas, je chante trop mal ».
Ben, moi, je dirais que c'est pas chanter juste ce qui compte, c'est juste avoir envie de chanter. Parce que ce qui est très important pour le bébé, c'est la voix de sa maman. C'est quelque chose, c'est son repère, c'est la vibration. Vous savez, un bébé, quand il vient de naître, quand on le pose sur la peau de sa maman, il est tout de suite réconforté. Et si la maman lui parle et lui chante une chanson qu'il a entendue, qu'il connaît, il est dans un environnement sécurisant pour lui qui est en train d'expérimenter la nouveauté.
Est-ce que le bébé à la naissance reconnaît la voix de sa mère?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Oui, oui, il y a même des études qui ont été faites comme quoi il a même des références de mots. Il a déjà un vocabulaire à partir du moment où on répète des actions. En les nommant, le bébé peut arriver au monde avec, entre guillemets, pas un vocabulaire qui va émettre, mais un vocabulaire qui va comprendre. Oui. Et les chansons, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on peut chanter des chansons régulièrement pour son bébé, avec son conjoint, avec sa conjointe, avec les enfants. Et quand l'enfant va arriver, ben, ça c'est un environnement qu'il connaît déjà. Et je vous assure que pour un bébé qui expérimente la nouveauté en permanence avec tous ses sens qui sont ouverts à 300%, avoir des repères sensoriels qui le rassurent, c'est vraiment important.
Et après la naissance, on poursuit et c'est une partie qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le chant pour communiquer avec son enfant, pour le rassurer, pour tisser des liens. Ça me semble assez fascinant. Et je me demandais, Sonia Péguin, si fredonner est aussi valable que chanter. Est-ce que c'est la mélodie en tant que telle ou les paroles qui ont le plus d'impact sur l'enfant?
Bien, je vous dirais que c'est la présence qui a le plus d'impact sur l'enfant. C'est-à-dire, si je chante et que je suis en train de laver la vaisselle et que je chante et que je ne suis pas dans ce que je fais, le bébé, il va entendre.
Ouais.
Mais si je chante pour mon enfant, je me rends disponible, je suis pleinement présente, je lui parle à travers la mélodie, mais ça peut être juste... comme ça vient, ça peut être des mots aussi, mais c'est d'abord mon intention et ma présence qui comptent. C'est comme dans les émotions. Un bébé, c'est du ressenti à 300%.
Oui. Vous faites aussi des ateliers auprès de parents, d'enfants, avec leurs petits poupons, là.
Oui, oui, oui. Moi, je raconte des histoires aux enfants dès la naissance.
Oui.
Et puis, évidemment, comme je suis conteuse et que je m'adresse à ce public-là, je chante beaucoup. Hein, parce que, évidemment, la mélodie, la voix, le rythme, tout ça, ce sont des perspectives d'éveil, d'intérêt. Moi, j'ai un public de bébés autour de moi, assis ou dans les bras de leurs parents, les yeux grands ouverts, qui sont d'une attention extraordinaire. Les bébés sont capables d'une écoute plus grande que des enfants qui vont avoir 3-4 ans parfois. Hein. C'est vraiment spectaculaire. Et puis surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'un bébé qui a été vibré, parce qu'on appelle ça vibré, dans le ventre de sa mère par le chant, par la musique, des instruments acoustiques comme la guitare, le piano, le violoncelle, sont des bébés qui développent un tonus musculaire très grand. Et on le voit tout de suite à la naissance. Ils sont capables, immédiatement à la naissance, de tourner la tête vers une source lumineuse, de retourner la tête vers la voix de leur maman, la voix de leur papa, la voix de leur frère, de leur sœur. Ils ont un éveil particulier, ces enfants-là.
Et à noter, pour des parents fatigués suite à la naissance de leur enfant, le chant aide à dormir et à dormir mieux. Pour le bébé, ça peut être un outil assez précieux lorsque l'on est parent d'un nouveau-né. Sonia Péguin, je le rappelle, vous êtes conteuse pour les tout-petits, animatrice de chant prénatal. On peut aller sur bébéchanteur.com pour en savoir davantage, notamment sur votre session d'automne. Vous avez 12 ateliers à offrir à partir du jeudi 6 octobre pour les parents et pour leur bébé également, Sonia.
Alors, pour les bébés, oui, c'est bébé chanteur. Mm-hmm. Donc, bébé chanteur, c'est vraiment pour les tout-petits dès la naissance, puis avant les premiers pas, pour aller vers le son, le chant, la voix. Ça commence mercredi 28 septembre. Donc, ça, c'est une session d'atelier. Et puis, le chant prénatal, oui, début octobre pour 12 ateliers dans le quartier Rosemont. Oui.
Merci beaucoup, Sonia. Ça a été un plaisir.
Merci, Marianne.
Au revoir. Journée internationale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui qui, je vous le rappelle, je le disais en introduction également, touche près de 141 000 personnes, oui, que ce soit maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée ici au Québec et à travers les années, d'ici une génération, on dit que c'est les risques de développer la maladie pourraient doubler à tous les 5 ans. Donc, évidemment, c'est préoccupant, notamment quand ça touche l'un de nos proches, et c'est le cas de Marie-Pierre Vaudry. Elle est la fondatrice d'édition Melba et derrière ce livre « Antirides pour les neurones ». Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Marianne.
Alors, cette initiative derrière Antirides pour les neurones, c'est un besoin que vous avez observé en étant proche aidante de votre mère.
Oui, tout à fait. En fait, dès le début de la maladie, ma mère avait beaucoup de difficultés à réaliser ses passe-temps favoris comme les mots cachés, des mots croisés ou lire, par exemple, un roman par semaine, ce qu'elle faisait avant. Donc, rapidement, j'ai pris conscience qu'elle n'était plus capable de faire ses activités. Donc, se retrouver un peu démunie et démotivée de faire toutes sortes d'activités. Et donc, moi, de mon côté, j'ai commencé à chercher des ouvrages pour elle pour vraiment qu'elle continue d'être stimulée. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'ouvrage destiné aux personnes atteintes d'Alzheimer et qui sont adaptés, en fait, pour eux. Donc, mm-hmm. C'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans un projet d'édition.
Le manque crée, en fait, amène à la création, bien souvent, Marie-Pierre.
Oui, exactement.
Comment ce livre-là, Antirides pour les neurones, en fait, qu'on qualifie plutôt de recueil spécialisé, a été conçu?
En fait, la conception, tout d'abord, ça a été vraiment une étude de marché, à voir qu'est-ce qui se trouvait sur le marché. Et ensuite, moi, n'ayant pas un passé des compétences médicales, donc j'ai plutôt des études en gestion de projet, donc j'ai souhaité m'entourer de professionnels de la santé pour vraiment m'assurer que le produit allait être adapté pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc j'ai commencé à contacter des gens, des chercheurs, entre autres de l'Institut de gériatrie de Montréal, l'Institut universitaire.
Oui.
Donc on parle d'orthophonistes, neuropsychologues, gériatres, physiothérapeutes, optométristes, mm-hmm. nutritionnistes, qui ont vraiment été en mesure de me conseiller sur ce qui était le plus adapté pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc c'est en les consultant, en validant également qu'il y avait un besoin, que j'ai pu vraiment créer cet ouvrage-là.
Le livre a été également revu et approuvé par la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Marie-Pierre, d'où vient l'importance de garder stimulée la personne atteinte d'Alzheimer?
Il y a plusieurs études en ce moment, entre autres récemment, Jude Poirier, gériatre, mm-hmm. à l'Institut Douglas, qui confirmait encore une fois que les études prouvent, démontrent scientifiquement que la stimulation intellectuelle et physique ralentit la progression de la maladie. Et aussi, moi, ce que j'ai pu constater au quotidien avec ma mère, j'ai vraiment vu aussi que le bien-être au quotidien des personnes devait être vraiment pris en compte. Donc, en fait, la stimulation permet à la fois, oui, un ralentissement léger de la maladie d'Alzheimer, de la progression. Ce n'est pas curatif, la stimulation, mais on va ralentir la maladie. Et aussi, ça touche vraiment au bien-être des gens au quotidien. Donc, les gens qui restent encore à la maison et aussi permet d'entretenir une meilleure communication avec les aidants. Donc, tout ça est vraiment bénéfique pour les personnes à la maison.
Est-ce que ça peut convenir à une personne qui est très atteinte de la maladie?
En ce moment, l'ouvrage est plutôt destiné aux gens qui sont atteints à un stade modéré de la maladie. Mm-hmm. Au stade plus avancé de la maladie, c'est d'autres types d'activités qui sont plus appropriées pour les gens. On se retrouve aussi à être confronté à un manque d'intérêt à la fin de la maladie, à de l'apathie. Donc, le livre, le recueil de jeux, est adapté pour les gens à un stade plutôt modéré, qui ont encore de l'intérêt pour faire des choses, qui souhaitent encore être stimulés. L'ouvrage a vraiment été plus conçu pour cette phase de la maladie.
Donc, stimuler des jeux, vraiment une grande diversité de jeux pour stimuler, rendre active, que la personne demeure autonome. Et ça, c'est à peu près une vingtaine de minutes par jour. Il y a également un guide pratique pour les aidants. Marie-Pierre, vous qui en êtes une proche aidante, quels sont les grands besoins des proches aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
Justement, les aidants à la maison sont débordés. Moi, je peux le voir avec mon père qui doit tout gérer, qui doit et plusieurs personnes, je pense qu'ils vont se reconnaître dans ce que je vais dire, sont vraiment débordés par s'occuper des tâches ménagères, s'occuper des repas, s'occuper de la personne dans son hygiène. Donc, ils sont vraiment très débordés et malheureusement n'ont pas nécessairement le temps et la créativité pour penser à des choses à faire avec l'aider. Et moi, c'est ce que j'ai pu percevoir en étant bénévole, en étant moi aussi aidante. J'avais envie de faire quelque chose qui permet aux aidants, qui leur sollicitera pas trop de temps supplémentaire et quelque chose de vraiment déjà tout préparé. On le prend, on fait l'activité avec la personne et c'est terminé. Donc, on n'a pas besoin de concevoir nous-mêmes des jeux. Même si je suggère dans le guide pratique pour les aidants des jeux supplémentaires, mais qu'on peut faire à la maison avec le matériel qu'on a à la maison.
Oui. Le recueil aborde aussi des grandes lignes de la prévention. En terminant, Marie-Pierre Vaudry, comment on peut se le procurer en thyride pour les neurones?
On peut se le procurer dans les différentes sociétés d'Alzheimer du Québec. Donc, certaines sociétés le vendent directement à leurs membres. Également sur le site Internet des éditions Melba, donc editionmelba.com, et aussi dans les boutiques CDS, boutiques en ligne. Donc, c'est le concept du semblier anciennement qui offre des produits adaptés pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, vous pouvez retrouver le livre dans ces différents endroits.
Le lancement avait lieu hier, donc c'est encore tout beau, tout chaud et très utile pour les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches aidants, bien sûr. Marie-Pierre Vaudry, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle, vous êtes fondatrice des éditions Melba. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Je discuterai avec Carole Morancier. Elle est enseignante de yoga, conférencière, auteure, instigatrice de la méthode Yoga Tout, qui s'adresse tout spécialement aux personnes âgées qui désirent faire du yoga, pour les initier au yoga, mais aussi pour découvrir tous les bienfaits de cette pratique sur les personnes âgées, notamment prévention des chutes, mais également d'autres bienfaits pour les personnes vieillissantes. On en parlera tout à l'heure avec Carole Morancy. Mais pour le moment, je joins le docteur Jacques Hébert. Il est du côté de Québec. Il est immunologue, allergologue à la clinique spécialisée en allergie de la capitale. Il est là pour nous parler d'un trouble héréditaire qui est très rare, c'est-à-dire l'angio-œdème. Docteur Hébert, bonjour.
Bonjour.
Bon, je dirais que c'est mystérieux comme trouble héréditaire, l'angio-œdème, notamment parce que c'est très, très rare.
C'est en effet rare. Ça touche à peu près une personne sur 50 000. Alors, donc, c'est souvent très rare, c'est pas fréquent, évidemment.
Une personne sur 50 000, est-ce que c'est ici au Québec, au Canada ou partout dans le monde?
À travers dans le monde.
Ah oui, hein? Assez difficile également à repérer. Comment on peut identifier l'angio-œdème chez quelqu'un qui en souffre?
En fait, les patients qui souffrent de cette entité-là, les symptômes qu'ils présentent, c'est d'abord des épisodes d'enflure ou d'angio-œdème, d'enflure qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps, le visage, les lèvres, une main, un doigt, un pied, n'importe quoi. Alors, c'est des enflures qui apparaissent tranquillement et qui vont durer 2-3 jours. Et évidemment, quand c'est au niveau des voies respiratoires, puis de la bouche, puis de la langue, ça peut compromettre la respiration, puis ça peut évoluer vers le manque d'air, la suffocation. Et avant qu'on ait des traitements adéquats, le taux de mortalité à ce niveau-là est à peu près 30 %. Donc, c'est pas banal. Et
non.
Une autre manifestation qui est fréquente, c'est cet édème-là, cette enflure-là, peut arriver aussi au niveau du tube digestif. Et les patients vont présenter des crises de douleur abdominale avec ballonnement. Ballonnement qui a l'air d'une femme enceinte de 8 mois, qui arrive d'une façon brutale et aiguë et qui va durer là aussi plusieurs jours. Et vu que c'est extrêmement inconfortable, avant d'être reconnu, ces patients-là se présentaient à l'urgence et étaient souvent opérés pour rien parce qu'on pensait que c'était un appendicite, on pensait que c'était une vésicule biliaire qui était inflammée et on opérait. Faute de ne pas savoir ce qui se passe. Alors donc, c'est juste pour dire que la douleur est tellement prenante et intense que ça en impose, ça suggère une urgence chirurgicale.
Oui, parce que vous le dites bien, inconfortable, intense et extrêmement douloureux également.
Extrêmement douloureux. Je ne pourrais pas te commenter personnellement, mais plusieurs femmes me disent que c'est 10 fois pire qu'un accouchement.
Et, OK.
Comme intensité.
On peut figurer assez bien le niveau de douleur, docteur Hébert. Maintenant, à quel moment de la vie ça peut se manifester? Est-ce qu'un enfant peut être touché par l'angioödème?
Oui, et c'est une maladie héréditaire, donc c'est une maladie qui est causée par un déficit ou une anomalie d'une protéine dans le sang qu'on appelle le complément. Alors, on vit au monde avec ça d'une façon héréditaire, on l'a ou on l'a pas, mais ça peut se manifester à n'importe quel âge. Il y a des gens qui vont avoir des premiers symptômes au niveau de l'adolescence, d'autres ça va être plus tôt, mais des jeunes enfants, aussi jeunes que quelques mois, quelques années, peuvent avoir des symptômes avec le même tableau clinique. Mais d'une façon plus caractérisée, c'est les patients, c'est une entité qui est extrêmement dépendante des hormones, surtout des hormones mâles, femelles, pardon, des estrogènes.
Mm-hmm.
Alors donc, durant la puberté ou durant la grossesse, ou durant la vie adulte, vu que le taux d'estrogène est plus élevé, souvent, les épisodes sont plus sévères et plus fréquents. Alors donc, puis c'est déclenché ces épisodes-là par une foule de facteurs aussi. Ça peut être un petit traumatisme au niveau de la peau. Par exemple, quelqu'un qui a une manipulation dentaire chez le dentiste, la peau est étirée au niveau du visage et ça peut entraîner cette enflure-là locale où le traumatisme a eu lieu. Ça peut être des facteurs de stress, ça peut être une infection, ça peut être un virus. Puis bien souvent, on ne trouve pas de cause intelligente pour expliquer ça, mais c'est... Ça peut être déclenché donc par de multiples facteurs et d'une façon très sporadique. Et j'ai des patients qui vont faire une crise par semaine, j'ai des patients qui vont faire 3 crises par année, puis j'ai une patiente qui en a fait 3 dans sa vie, puis sur la même maladie. Alors pourquoi elle en est ainsi, on n'est pas trop sûr, mais il reste que la présentation, le type d'enflure, sa sévérité est extrêmement variable pour le même patient d'une fois à l'autre et d'un patient à l'autre.
C'est ce qui explique à quel point ça gagne à être démystifié, mais pourquoi c'est si peu connu du monde médical. Docteur Hébert, vous êtes immunologue, allergologue. En quoi c'est lié à des allergies, ce trouble héréditaire?
Ben, en fait, le problème majeur, c'est que quand on fait des enflures comme ça, le réflexe que tous les docteurs ont, puis c'est normal parce que c'est beaucoup plus fréquent, c'est de penser à une allergie. Parce qu'une allergie aux arachides, par exemple, peut se manifester par des enflures au visage brutales qui ressemblent en tout point à ce que je viens de vous décrire. Dans une allergie, on n'a pas ces douleurs abdominales-là, mais une patiente qui arrive à l'urgence avec un enflure au visage, une allergie doit être prise en considération. Et les allergies sont beaucoup plus fréquentes. Écoutez, 90 % des gens qui se présentent à l'urgence avec une enflure à quelque endroit que ce soit, c'est bien plus souvent 90 % une allergie que d'autres choses. Alors, les urgentologues puis les médecins sont habitués de voir puis de traiter les allergies, ce qui est beaucoup plus fréquent. Ça touche 30 % de la population. Alors qu'une autre entité qui est beaucoup plus rare, qui est tout simplement une personne sur 50 000, vous comprenez que l'exposition à cette pathologie est beaucoup plus rare.
Mm-hmm.
L'autre caractéristique de cette maladie-là, dans l'angioödème héréditaire, c'est que les médicaments qu'on utilise pour traiter l'allergie comme le Benadryl, comme la cortisone, comme l'épipène ou l'adrénaline, ça fonctionne à peu près pas dans l'angioédème héréditaire.
Par contre, il y a des traitements, il y a des gens qui peuvent s'injecter, par exemple dans le ventre ou j'imagine ailleurs, un médicament pour tenter de calmer les enflures.
Oui, il y a des médicaments. Les allergies sont causées par le relargage d'une protéine qu'on appelle le médiateur, qu'on appelle l'histamine, d'où la prise d'antihistaminique là, pour traiter les allergies. Et dans le contexte d'angioédème héréditaire, c'est une autre protéine qui est relarguée qui s'appelle la bradykinine. Et évidemment, il y a maintenant un nouveau produit, un anti-bradykinine, qui vient d'être arrivé sur le marché au Canada, qui vient d'être accepté en décembre 14 au Canada. Alors, c'est nouveau, mais au moins, là, on a un traitement efficace pour traiter ces crises aiguës-là. Donc aujourd'hui, on est équipé pour être capable de faire face à la musique puis de traiter ces gens-là d'une façon efficace et rapidement.
Oui.
Maintenant, le problème, c'est qu'encore une fois, comme vous le disiez, c'est si peu connu, dans ses manifestations que dans son traitement, que bien souvent les patients, on va prendre des années avant qu'ils soient diagnostiqués. On a eu l'occasion, avec un petit congrès la semaine passée, de voir une patiente qui est la vice-présidente de l'Association américaine de l'angioédème héréditaire. Et elle a souffert toute sa vie de ça, puis a été diagnostiquée à l'âge de 40 ans. Ça a pris 40 ans, puis de multiples visites à l'urgence, de multiples chirurgies plus tard. Et tous ces patients-là vont avoir une histoire d'entre 10 et 20 ans où ils ont erré d'une urgence à l'autre avant que quelqu'un pense au diagnostic. Vous savez, faire le diagnostic, c'est d'abord y penser à cette entité-là. Et quand on y pense, c'est des outils de laboratoire qui peuvent nous aider à préciser le diagnostic. Mais il faut d'abord y penser.
Oui. Et sans penser à tous les impacts sur le quotidien, tout à l'heure, vous parliez que de jeunes bébés peuvent être atteints de l'angioédème. On peut imaginer le risque pour leur santé, mais également à l'âge adulte, aller travailler, la vie de famille, ça doit être extrêmement compliqué avec ce trouble héréditaire.
Compliqué, le travail aussi. Le travail et la performance scolaire. L'impact de cette maladie-là sur la performance scolaire et le travail est majeur. Un bon nombre de gens ont perdu leur emploi parce que quand vous avez la bouche enflée de façon épouvantable qui va durer 3 jours, vous n'allez pas travailler parce que vous n'êtes pas confortable et vous ne voulez pas y aller. C'est tout à fait compréhensible. Mais votre employeur va finir par ne pas comprendre ça, va finir par vous mettre à la porte. Et le problème de ces gens-là, de ces familles-là, c'est qu'ils ont souvent perdu leur emploi, perdu leur promotion, perdu leur chance d'avancement à cause de ce problème clinique-là, avant qu'on ait des traitements fiables pour pouvoir les contrôler puis les traiter.
Et sans même pouvoir l'expliquer parce qu'on a très peu d'informations sur le trouble. Docteur Hébert, si on est un parent qui vit avec l'angioédème, quels sont les risques de le transmettre à notre enfant?
C'est 50 %. C'était une transmission autosomale dominante.
Et...
Donc, il y a 50 % des enfants qui vont être atteints, garçons et filles, d'une façon égale.
J'imagine que vous rencontrez chez vous, Dr Hébert, des patients qui hésitent à donner la vie suite à ce diagnostic-là.
C'est sûr qu'il y a des gens, j'ai des patients pour qui ça a été une considération dans les choix qu'ils ont faits, effectivement, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants souffrent de cette condition-là. Je me souviens d'une famille, 3 générations, dans chacune des générations, de la première et de la deuxième, il y a eu au moins 2 décès reliés à ça. Alors, vous savez que quand vous êtes dans la deuxième génération, vous avez des enfants, mais vous pensez à cette réalité-là aussi. Alors, tu sais, donc, ça a été une considération pour, malheureusement, bien des patients.
Oui.
Aujourd'hui, avec les traitements qu'on a, on peut, Dieu merci, être capable de traiter efficacement ces gens-là. Mais ça fait pas longtemps qu'on a des produits efficaces. Ça fait à peine entre 10 et 15 ans maximum. Et pourtant, la maladie a été décrite la première fois dans un textbook anglais de 1888. Donc, elle est connue depuis presque une centaine d'années.
Oui, avec quand même très peu d'informations pour le monde médical. Et d'ailleurs, en terminant, Jacques Hébert, c'est pour ça que l'on se parle aujourd'hui, bien sûr, d'une part pour démystifier l'angioédème héréditaire, mais parce que l'Association des personnes qui souffrent de ce trouble héréditaire a lancé une campagne de sensibilisation au Québec.
Dans le but, justement, que toutes les personnes, le personnel du monde de la santé puisse y penser, puis demander des tests à propos pour prouver ou confirmer le diagnostic.
Oui. Et pour aussi peut-être permettre, hein, tout à l'heure, on parlait des employeurs, des proches, de la famille, de comprendre aussi toutes les difficultés qui sont liées à cette maladie et d'avoir une plus grande empathie, une plus grande compréhension aussi.
Exactement.
Dr. Jacques Hébert, vous êtes immunologue, allergologue du côté de la clinique spécialisée en allergie de la capitale. Tout ça du côté de Québec. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.
Bye-bye.
Yogato, la prévention des chutes, un livre qui est sorti récemment du côté des éditions de l'Homme de la Plume de Carole Morancy, préface de Louis Bérère, un neuropsychologue que j'aime beaucoup. Carole Morancy, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
J'imagine bonjour. Que vous aimez bien Louis Bérère aussi.
Ah oui, vraiment. c'est vraiment une personne exceptionnelle et... très passionné par ce qu'il fait et quand il a accepté de faire ma préface et qu'il l'a fait, j'étais vraiment très, 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 très touchée parce que je me dis que je sais que le yoga aide les gens, mais quand on a aussi l'appui de la science, ben oui. Pour les sceptiques, ça vient peut-être un peu les réconforter à peut-être faire un petit essai.
Tout à fait. Louis Bérère, neuropsychologue, est bien sûr une bonne source. Carole Morancy, vous êtes enseignante de yoga, conférencière et instigatrice de cette méthode Yogato. En quoi ça consiste, cette méthode?
Mais en fait, Yogato, moi, je pratique le yoga depuis une quarantaine d'années, en fait, depuis que j'ai 13 ans. Et pour moi, le yoga a toujours été comme une ligne de vie. Et ma mère est décédée des suites d'une fracture de la hanche à 76 ans. Et ça m'a beaucoup interpellée. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, me semble que... Parce que, en fait, il faut que je vous dise, ma mère est décédée très jeune, 76 ans,
oui,
c'est très jeune
oui.
aujourd'hui. Et quand elle était à l'hôpital, l'infirmière m'avait dit, faites-la respirer. Puis j'essayais, mais elle respirait vraiment très légèrement. Donc, elle était décédée deux semaines après, je pense pas que je l'aurais sauvée, mais ça m'a en tout... Tu sais, ça m'a dérangée, ça m'a troublée. Je me suis dit, comment on peut arriver là, puis on ne pas être capable d'utiliser mieux son souffle?
Et c'est vrai que le souffle et la respiration, c'est une partie prenante du yoga.
Absolument, absolument. Puis, on parle de la prévention des chutes, mais la respiration nous ramène aussi dans la conscience du corps.
Oui.
Oui, en vieillissant, l'esprit s'en va plus vers le haut. On est moins dans son corps. En fait, ce que je trouve assez troublant, c'est que dans les statistiques, beaucoup de gens qui font une chute vont dire qu'ils ont trébuché dans leurs pieds. Donc, c'est quand même assez, assez frappant d'entendre « j'ai trébuché dans mes propres pieds ». Donc, ça nous signale que la conscience, elle n'est pas présente dans les pieds.
Mon propre corps m'ennuie, finalement.
Exactement. J'ai trébuché dans mon corps.
Ouais.
mais si j'insiste là-dessus...
L'image est forte, en effet.
Oui, c'est ça. Puis quand on reprend la respiration, il y a un maître yogi qui disait, si vous respirez à 50 % de votre capacité, vous passez à côté de 50 % de votre vie. Donc, en respirant, on revient dans le corps, on devient plus présent.
Donc, on y parle dans ce livre de la respiration. Évidemment, on met de l'avant les bons exercices à faire, mais le yoga, c'est plus vaste que ça. Vous y parlez également d'alimentation, de relaxation. Il y a une part attribuée à la méditation.
Tout à fait, tout à fait. En fait, moi, je vois le yoga, pour revenir à votre première question, notre méthode, c'est un peu une façon de démocratiser le yoga, de l'amener dans le quotidien, mm-hmm. de voir comment ça peut aider tout le corps dans tous ses aspects. Parce qu'on, évidemment, on est un corps, on est un esprit, des émotions, on a un tas de choses. Puis on ne peut pas adresser juste une partie du corps. Mm-hmm. Il faut que toutes ces parties soient traitées également et développées pour que ça forme une roue qui nous permette de bien rouler dans notre vie, si je peux me permettre cette image-là. Donc, l'idée derrière Yoga Too, c'est d'amener le yoga de façon concrète aux gens, avec des termes concrets, avec des images de tous les jours.
Oui.
Donc ça, c'est à la base.
Je me dis, Carole, si le yoga permet la prévention des chutes, c'est qu'il doit favoriser l'équilibre de la personne qui pratique le yoga. De quelle façon ça favorise l'équilibre?
Ben, premièrement, par les postures. Mm-hmm. Puis, dans les postures, on va travailler des postures comme le guerrier, qui vont ramener beaucoup de force dans les jambes. Une des raisons pour lesquelles on a moins d'équilibre, c'est qu'on n'a pas de force. Il y a la fonte musculaire qui entre en ligne de compte. Donc, des postures comme le guerrier vont nous faire travailler la force des jambes. La grande fente, comme elle est démontrée dans le livre, vont mmh. aussi favoriser cet aspect de la force musculaire. On a besoin du tonus musculaire. On a aussi besoin de la santé du cerveau.
Mmh.
Et ça, c'est la respiration, la méditation qui vont nous amener cela. C'est prouvé que la méditation va améliorer ou épaissir la matière grise. Donc, c'est vraiment formidable.
Oui.
Et il faut que le temps de réponse entre ce qui se passe avec le déplacement du corps ou quand il met en déséquilibre, il faut que le cerveau puisse traiter l'information rapidement pour rattraper le corps.
Oui.
Donc, quand on pratique la posture de l'arbre, par exemple, on se rend bien compte que le corps bouge à droite, à gauche, légèrement, mais c'est toujours le cerveau qui le ramène. Donc, c'est important. Puis, il y a aussi les yeux qui vont être importants, parce que les yeux vont nous fixer dans l'espace, où on est placé dans l'espace, où on est positionné. Puis aussi à nous aider à éviter les obstacles.
Et le positionnement des yeux a aussi une influence sur notre équilibre. Les postures sont très bien illustrées dans votre livre, Carole Morancé. Il y a également un DVD. C'est une façon, bien sûr, de s'initier au yoga. Et j'y arrive justement à l'initiation au yoga pour des personnes âgées, 65, 75 ans, qui n'ont jamais pratiqué le yoga. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour tenter de les convaincre que c'est une pratique qui est tout à fait adaptée à eux?
Mais en fait, c'est la beauté et l'art du yoga, c'est qu'il peut être pratiqué dans une expression très simple, qui soit même quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, qui va être la respiration. Donc, c'est de la façon qu'on l'adapte, c'est qu'on va chercher les bienfaits. C'est quoi les bienfaits d'une posture? C'est quoi les bienfaits de travailler telle posture et tout ça? Puis, on va amener la posture dans son mouvement le plus simple mm-hmm. pour aller chercher un minimum des effets positifs de la posture. Si je m'exprime bien,
oui.
si c'est une image claire. Donc, on peut commencer, par exemple, une torsion. Ben, on n'amènerait jamais une personne âgée dans une torsion très, très profonde si elle n'a jamais fait de yoga. Par contre, on peut lui faire placer la main droite à l'extérieur de la jambe gauche et tourner légèrement pour commencer par un petit mouvement.
Donc, il y a moyen de commencer tranquillement, ne serait-ce que, comme vous le mentionniez tout à l'heure, par la respiration, qui est toute simple et qui est à la base de la vie. C'est l'une des premières choses que l'on a faites en naissant, respirer.
Oui, oui. Puis, si vous arrivez aussi, Mme Paquette, avec une problématique, c'est que les gens doivent comprendre pourquoi ça va leur aider, pourquoi le yoga va leur va les aider? Pourquoi ça va être efficace? On sait que 10 % à peine de la population prend soin de son corps.
Oui.
Donc, c'est encore, tu sais, plus faible en vieillissant. Puis là, les gens ont des douleurs, puis ils ne veulent pas bouger. Par contre, l'inactivité va causer plus de douleurs que l'activité.
Oui, ça s'est prouvé de plus en plus.
Tout à fait. Donc, moi, dans les conférences, je parle de ces choses-là, je dis les choses telles qu'elles sont, et puis j'invite les gens à essayer. Donc, moi, je crois beaucoup au concret. Donc, moi, j'essaie de convaincre les gens une personne à la fois. Puis, quand les gens ressentent dans leur corps et comprennent que s'ils respirent profondément, ça va aussi améliorer tout le tonus intérieur des muscles, les organes internes et tout ça, déjà, ça fait une différence. S'ils comprennent qu'une torsion va favoriser l'élimination, ils le comprennent, ils le sentent, c'est gagnant.
Oui. Donc, prévenir les chutes, favoriser l'équilibre, la santé des organes, tout ce qui est douleur articulaire, douleur chronique. Je le disais tout à l'heure, de nombreux bienfaits au yoga pour les personnes âgées. Je rappelle, Yoga Tout, la prévention des chutes, c'est aux Éditions de l'Homme. Carole Morancy, vous êtes l'instigatrice de cette méthode Yoga Tout. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci à vous, Marianne, et puis bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Dernier segment de cette émission de C'est bon pour la santé, où j'ai voulu accorder cet instant pour vous parler d'un coup de cœur, d'une lecture. J'ai envie d'attirer votre attention sur des petites choses très, très personnelles. Et aujourd'hui, je vous parle de la colère, qui est parfois, du moins, qui peut être saine, qui est parfois inévitable, qu'on a du mal à contrôler, à saisir, et qui a beaucoup d'impact sur notre santé. Et ça vient pas de moi, bien sûr, c'est une étude parue dans le European Heart Journal en 2014 qui a révélé qu'une personne en bonne santé présente 5 fois plus de risques de subir un infarctus et 3 fois plus de risques d'être victime d'un AVC dans les 2 heures après s'être mise en colère. Et pour les gens qui sont en moins bonne santé, plus vulnérables, on parle de personnes diabétiques, par exemple, ce risque-là sera encore plus élevé. Et par ailleurs, ce qui a été prouvé par cette étude, c'est que c'est la succession d'états colériques, de crises, d'être énervé qui serait le plus néfaste. Donc, encore une fois, l'accumulation et la répétition. Depuis, il y a des chercheurs, et ça, c'est du côté des États-Unis, Harvard, entre autres, qui ont révélé que d'être en colère ou même seulement de se remémorer des épisodes qui nous ont mis en colère. Donc, de ruminer, c'est souvent ça, c'est souvent comme ça qu'on nomme cet état, ça ralentit la production des anticorps et ça a donc pour effet d'affaiblir notre système immunitaire. Système immunitaire faible entraîne divers petits symptômes, maladies, rhumes et autres choses que l'on connaît bien, surtout en cette saison automnale. Donc, ça aurait des effets système immunitaire sur nos bronches aussi, c'est notre colère est mal gérée, anxiété. Pourquoi les bronches? Ben notamment parce que la colère augmente le taux d'hormone qui est associé au stress, une hormone qui aurait un effet inflammatoire sur nos bronches. État dépressif aussi, ce qui ne nous étonne pas de savoir, surtout pour les personnes qui ruminent la colère et qui plongent assez facilement dans cet état qui peut être assez violent. Donc, on fait quoi si on a tendance à voir rouge souvent ou si encore on a du mal à gérer notre colère, à l'accepter, à l'exprimer convenablement? On lit des livres. Ben, entre autres choses, on peut faire du yoga comme Carole Morancy nous proposait, aller prendre une marche et faire la cuisine, s'entourer des gens que l'on aime. Et quand je dis lire des livres, c'est parce que, bien sûr, j'ai une proposition de lecture à vous faire. La sagesse de nos colères, de la colère qui détruit à la colère qui construit, c'est un livre signé Marc Pistorio, un psychologue que j'ai déjà reçu ici dans le cadre de C'est bon pour la santé. Donc, je lui fais assez confiance pour vous parler de colère et pour vous aider à la démystifier. Voilà, ainsi se termine cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aux nombreux participants. Sonia Péguin, Marie-Pierre Vaudry, Dr Jacques Hébert, Carole Morancy, Anne-Laure Janson à la recherche et à la revue de presse de cette émission. C'est Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Christiane Campagnan aux médias sociaux. On est en rediffusion à 17h. Vous pouvez nous lancer un petit coup de fil, commentaire, suggestion, toujours apprécié. 361-0635, poste 220, c'est dans le 1-800, donc accessible à tous. canalm.vuesetvoix.com également pour entrer en contact avec nous. Les médias sociaux aussi, hein, quand j'en parlais, c'est Facebook, c'est Twitter. Marianne Paquette au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.